VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 26 août 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. En Angola, le président sortant, João Lourenço, en tête dans un scrutin serré. Au Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba prend des décrets réorganisant l'armée. Éthiopie, situation incertaine et inquiétude internationale après la reprise des combats dans le nord. Bâtir l'avenir sans rien occulter du passé colonial, le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite en Algérie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En Angola, le président sortant, João Lourenço, se dirige vers une probable victoire selon des résultats toujours partiels du scrutin le plus disputé de l'histoire du pays. Mohamed Houmfa.
À plus de 86% des votes dépouillés, le MPLA, qui dirige l'Angola depuis l'indépendance en 1975, est en tête avec 52,08% des voix, selon la commission électorale. Mais l'opposition est en passe de réaliser un score historique. L'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, remporte pour l'instant 42,98% des votes. L'ancien mouvement rebelle est pour l'instant largement en tête à Luanda, la capitale. Ne les laissez pas voler nos espoirs, a posté le chef de l'UNITA, Adalberto Costa Junior, sur Facebook après l'annonce des résultats partiels. Peu après, des coups de feu ont été tirés et quelques manifestations ont été observées dans les rues de Luanda. L'UNITA a déclaré la veille que selon son propre décompte, la tendance indique qu'elle s'est imposée dans toutes les provinces. Le MPLA semble en perte de vitesse dans un pays riche en ressources naturelles, mais plongé dans de graves difficultés économiques. De son côté, l'opposition s'est musclée depuis l'arrivée de M. Costa Junior. Elle a aussi élargi sa base en s'alliant à plusieurs partis.
Au Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba a pris des décrets réorganisant l'armée. Des régiments et bataillons ont été délocalisés. Un décret autorise aussi la création du 26e régiment d'infanterie commando qui sera basé à Boromo dans la boucle du Mouhoun. Il a dissous le groupement central des armées basé à Ouagadougou. Le point avec notre correspondant Lamine Traoré.
Le 10e régiment de commandement d'appel et de soutien, initialement basé dans la province du San Matenga, est délocalisé dans le BAM, une des provinces les plus touchées par le terrorisme. La province du Ganzourgou, à une centaine de kilomètres de la capitale, va abriter le bataillon du train. Celui du génie militaire et celui des transmissions stratégiques sont délocalisés respectivement dans les provinces du Boulkiemdé et du Bazega. Ces unités doivent prendre leur quartier au plus tard le 12 octobre prochain, précise le décret. Aussi, le 26e régiment d'infanterie commando sera basé dans la garnison de Boromo, dans la boucle du Mouhoun, et placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre. Enfin, le président du Faso a procédé à la dissolution du groupement central des armées, basé à Ouagadougou. Ce groupement avait pour mission l'organisation du soutien logistique aux unités de l'armée. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La communauté internationale s'inquiète de la reprise des combats entre l'armée fédérale et les rebelles du Tigré dans le nord de l'Éthiopie, où la situation sur le terrain est jugée peu claire, Jacques Aristide.
Ni le gouvernement éthiopien, ni les rebelles n'ont fait état hier de la poursuite ou non des affrontements. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les nouvelles hostilités après 5 mois de trêve. Dans un communiqué daté de mercredi, les rebelles tigréens ont simplement indiqué que les troupes gouvernementales n'avaient pas réussi à briser leur ligne de défense. Quant au gouvernement, il s'est à nouveau dit prêt à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la nation. nations, mais aussi déterminé à utiliser des moyens pacifiques pour mettre un terme au conflit. Il a une nouvelle fois accusé les rebelles de détourner l'aide humanitaire à des fins militaires. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les belligérants à mettre une fin définitive au conflit. L'ONU, l'Union africaine, la Turquie, la France et la Grande-Bretagne ont également exhorté au dialogue. Pour Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, les dernières informations assombrissent les perspectives de paix. Il demande à toutes les parties de désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère.
Le président français Emmanuel Macron poursuit ce vendredi une visite de 3 jours en Algérie destinée à bâtir l'avenir sans rien occulter du passé colonial, en mettant l'accent sur les jeunes entrepreneurs et start-up avec l'ambition de créer un incubateur franco-algérien de start-up numérique. Monsieur Macron et son homologue Abdelmajid Tebboune ont scellé jeudi leur réconciliation après des mois de brouilles diplomatiques. Ils ont aussi abordé la situation du Mali, d'où l'armée française vient de se retirer, du reste du Sahel, de la Libye et du Sahara occidental. S'agissant justement du Sahara occidental, l'Allemagne a apporté jeudi son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie sur cette ex-colonie espagnole. Cette initiative a été qualifiée de bonne base pour régler ce conflit régional, mettant un point final à une longue crise diplomatique avec Rabat. C'est ce qui ressort d'une déclaration conjointe publiée à l'issue de la première visite à Rabat de la chef de la diplomatie allemande, Anna-Lena Baerbock. Parmi les points de friction, Berlin avait critiqué la décision de Washington de reconnaître en décembre 2020 la souveraineté du Maroc sur ce territoire qui oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenu par Alger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des lois interdisant l'avortement sont entrées en vigueur hier dans 3 nouveaux États américains. Le Tennessee, le Texas et l'Idaho ont rejoint la 10aine d'autres États qui ont mis en place des lois dormantes votées en prévision de la décision de la Cour suprême Michel Joseph.
Au Texas, la loi qui est entrée en vigueur hier punit jusqu'à la prison à vie tout soignant qui pratiquerait un avortement, avec une exception en cas de danger majeur pour la mère. Au Tennessee, dans le sud du pays où l'avortement était déjà prohibé au-delà de 6 semaines, tout praticien réalisant une interruption volontaire de grossesse pourra être condamné à une peine de prison. Cet État, tout comme le Texas, ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste. Dans l'Idaho, dans le Nord-Ouest, le nouveau texte permet de condamner de 2 à 5 ans de prison ceux qui auront pratiqué une IVG, avec des exceptions en cas d'inceste ou de viol. À terme, environ la moitié des 50 États américains, surtout dans le centre et le sud conservateurs et religieux, pourraient proscrire ou restreindre fortement l'avortement. Dans l'Indiana, une telle loi doit entrer en vigueur le 15 septembre. Par contre, au début août, les électeurs du Kansas, État traditionnellement à droite, ont voté pour le maintien du droit à l'avortement. Le 24 juin, la Cour suprême des États-Unis a rendu à chaque État le pouvoir de légiférer sur la question qui divise toujours les Américains.
Sauver la démocratie et faire barrage au semi-fascisme des républicains les plus radicaux, c'est un Joe Biden requinqué fort de sondages en hausse qui a appelé jeudi les Américains à voter en masse pour le Parti démocrate aux législatives de novembre. Lors d'un événement destiné à lever des fonds, le président démocrate a durement critiqué la frange la plus extrême du camp conservateur et sa philosophie MAGA extrême. MAGA, Make America Great Again, rendra l'Amérique sa grandeur, est le slogan de son prédécesseur républicain, Donald Trump. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, en zone occupée dans le sud de l'Ukraine, a été déconnecté jeudi du réseau ukrainien selon Kiev, les États-Unis mettant en garde la Russie contre un détournement de l'énergie produite qui serait inacceptable. Le président russe Vladimir Poutine a signé le même jour un décret ordonnant d'augmenter de 10% le nombre des militaires que compte l'armée en pleine offensive contre l'Ukraine et sur fond de tensions croissantes avec les pays occidentaux. L'armée américaine a annoncé jeudi avoir tué 4 combattants pro-iraniens en 24 heures dans l'est de la Syrie au cours d'une opération destinée à dissuader les groupes armés soutenus par l'Iran de continuer à s'attaquer à ses bases dans la région. Le nombre d'incendies en Amazonie au Brésil a atteint lundi son record sur près de 15 ans selon des chiffres officiels. Nouveau signe des destructions causées dans la plus grande forêt tropicale du monde. Les experts attribuent les incendies en Amazonie à l'action des agriculteurs, éleveurs et spéculateurs qui défrichent illégalement des terres en brûlant des arbres. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Togo, les ministres réunis en conseil hier ont pris un décret fixant le taux de redevance des marchés publics qui passe de 1,5% à 0,75% du montant des marchés hors taxes. Cette baisse s'inscrit dans le cadre de réformes visant à renforcer les mécanismes de transparence des marchés publics tout en réduisant les charges des opérateurs économiques. L'Égypte a signé des accords de 30 milliards de dollars avec des groupes énergétiques pour la construction d'unités de production d'hydrogène et d'ammoniac vert à Sokhna. Ces accords ont été conclus avec des entreprises indiennes, saoudiennes, britanniques, émiraties et égyptiennes. La société égyptienne MEP devrait investir 250 millions de dollars dans la construction d'une usine d'ammoniac vert d'une capacité de production de 120 000 tonnes par an. Ouverture samedi à Tunis du sommet triennal du Japon avec l'Afrique, la TICAD 8. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise, Eddy Ben Abbès, la Tunisie va proposer des dizaines de projets dans le domaine des énergies renouvelables, de la santé et des industries automobiles et spatiales. Ces chantiers devraient permettre la création de près de 36 000 emplois.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, Karim Benzema, sacré joueur UEFA de l'année.
Favori du Ballon d'Or qui sera remis le 17 octobre, l'attaquant français Karim Benzema a vu sa saison folle saluée par le titre de meilleur joueur UEFA de l'année hier à Istanbul, une distinction qu'il reçoit pour la première fois à 34 ans. Le numéro 9 du Real Madrid a été préféré à son partenaire Thibaut Courtois et au Belge de Manchester City Kevin De Bruyne, surpassé par l'attaquant madrilène, vainqueur du championnat d'Espagne et de la Ligue des Champions avec le Real et de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. L'ancien Lyonnais devient le deuxième joueur français récompensé par ce prix de la Confédération européenne dans sa configuration actuelle après Franck Ribéry en 2013. KB9 succède au palmarès à l'italien Jorginho, vainqueur en 2021 de l'Euro et de la Ligue des Champions avec Chelsea. Le prix féminin plus serré est revenu à l'Espagnole Alexia Putellas, tenante du Ballon d'Or. La joueuse de Barcelone crée la surprise car elle n'a pas disputé l'Euro à cause d'une grave blessure à un genou à la veille du coup d'envoi de la compétition.
Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions hier à Istanbul a accouché d'une poule de titans.
Et oui, une poule de titans avec le Bayern Munich, Barcelone et l'Inter Milan, le groupe le plus difficile sur le papier. Le destin est farceur pour la nouvelle star catalane, Robert Lewandowski, arraché de sa Bavière pour garnir les rangs Blaugrana cet été. Seul le football peut écrire de telles histoires, a commenté le directeur sportif du Bayern Munich. Après 8 années en Bavière, Lewy est son numéro 9 à l'occasion d'offrir au Barça une revanche étincelante contre le Bayern. Avant de rêver d'une finale européenne prévue le 10 juin 2023 au stade Atatürk d'Istanbul, Le parcours des cadors du vieux continent s'est clairement éclairci dans la capitale turque. Le tenant madrilène pour un 15e titre, le premier sacre du Paris Saint-Germain ou de Manchester City, le retour au premier plan du Barça ou de l'AS Milan, le suspense est lancé pour l'édition 2022-2023 de la plus grande compétition européenne qui démarre cette année dès le 6 septembre.
En athlétisme, l'Américain Noah Lyles estime qu'il peut courir encore plus vite.
Champion du monde du 200 mètres le mois dernier avec la 4e performance de tous les temps, 19.31, Noah pense pouvoir courir encore plus vite vendredi à Lausanne, de quoi menacer le record du monde de la légende Usain Bolt, 19.19 en 2009.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seboudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, résurgence du phénomène Kuluna dans la capitale Kinshasa. Ce banditisme urbain touche plusieurs quartiers populaires de la ville. Chaque jour, des bandes de jeunes délinquants drogués munis de machettes agressent et extorquent de paisibles citoyens. Les autorités rassurent et disent mettre tout en œuvre pour éradiquer ce phénomène. Reportage à Kinshasa de notre correspondant Alex Kati Kataï.
Des dizaines de jeunes qui se battent à coups de machettes, pierres, bâtons en plein jour jusqu'à s'entretuer. La scène semble irréaliste, mais pourtant bien vraie. C'est devenu le quotidien des habitants de plusieurs quartiers populaires de Kinshasa. C'est le cas d'Ndili, dans l'est de la capitale. Les habitants assistent impuissants à ces phénomènes de gangs urbains, drogués appelés Kuluna. Timothée Nsangou, habitant d'Ndili.
Les gens ne sont plus sécurisés à cause de ces phénomènes. Ça commence à être exorbitant. C'est comme si ce sont ces personnes-là qui commencent à faire la loi dans les différents quartiers du pays.
Les Kuluna se battaient souvent la journée ou le soir dans les rues sous l'effet de la drogue. Et c'était des rivalités entre jeunes délinquants de différents quartiers. Mais le phénomène a évolué. Depuis quelques années, les Kuluna agressent, extorquent et tuent de paisibles citoyens. Ils ne s'empêchent pas de casser certaines maisons. Méfie Makitu, qui habite Ndjeli, en sait quelque chose.
Lorsqu'ils font incursion dans votre maison, ils vous demandent de l'argent. Si vous n'en avez pas, ils vous coupent à la machette et emportent tout le bien de la maison. Ils violent et mangent même la nourriture qu'ils trouvent à la maison.
Le phénomène Kuluna a vu le jour au début des années 2000. Face à la résurgence du phénomène, le président Tshisekedi a mis en place une nouvelle approche. Envoyer ces délinquants dans des centres de formation paramilitaires où ils apprennent différents métiers et contribuent à la production agricole. Une approche qu'on doit améliorer, estime César Mpoy, juriste et analyste politique.
Il faudrait aussi que ceux qui ont commis des crimes, notamment de meurtres, qui ont violenté physiquement des gens, qui ont amputé des membres de certaines personnes, qui ont blessé des gens, eh bien ceux-là doivent répondre de leurs actes devant la justice et subir la rigueur de la loi.
Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
Je ne dis pas non à ce qu'ils sont en train de penser. Bon, s'il faut trouver des solutions pour ces jeunes gens comme responsables du pays, nous devons réfléchir pour effectivement venir en aide à nos enfants pour que après Kanyama Katete, par exemple, qu'ils soient mis au service de la République et pour le reste de leur vie.
La traque il y a un mois de ce délinquant dans les Lualaba au sud du pays a été très critiquée. Les ONG des droits de l'homme et certains élus locaux ont condamné la méthode utilisée et le décès de certains lors de cette opération. Les autorités, quant à elles, elles rassurent leur détermination à mettre fin à ce phénomène. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Les experts en informatique et les responsables des organes de prise de décision en Afrique estiment que les Africains doivent travailler de concert pour que la population du continent puisse accéder à Internet et à coûts réduits. Cet appel a été lancé à l'issue du Forum africain sur l'interconnexion ce jeudi. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
À l'heure où le numérique est devenu le véritable moteur de la vie mondiale aujourd'hui, le continent africain reste confronté au problème du faible taux de connectivité à l'Internet. Et réunis à Kigali pour le forum de deux jours, les experts en informatique et d'autres responsables œuvrant dans ce domaine ont montré que seulement 43% de la population africaine peut accéder à l'Internet aujourd'hui. À ce défi s'ajoute celui du coût élevé de l'Internet, qui fait qu'il soit toujours plus éloigné des citoyens de conditions modestes et l'épineuse difficulté des données africaines hébergées hors du continent. Joshua du Nigeria et Rebecca Wanjiko du Kenya indiquent que ces défis seront surmontés uniquement si les Africains privilégient la collaboration.
Je crois en l'efficacité de la conjugaison de nos efforts, sachant que chacun aura un rôle à jouer dans la diffusion de l'Internet sur le continent africain. Les activités comme un tel forum qui rassemble les gens œuvrant dans ce secteur sont d'une grande importance. Nous devons unir nos forces pour voir comment rendre notre Afrique meilleure.
Tant que nos capacités ne s'orientent pas vers l'Europe ou vers d'autres marchés internationaux, cela signifie que le coût sera limité à l'intérieur de nos frontières et ne changera pas.
Les experts indiquent par ailleurs que les pays africains ne doivent pas se contenter uniquement de rendre l'Internet accessible à la population, mais bien plus de faire en sorte qu'il contribue au bien-être de la population. C'est le point de vue de Yves Iradukunda, agent du ministère rwandais de la technologie et l'innovation, qui indique que son pays fait tout pour que la population valorise davantage la connexion à l'Internet.
Au Rwanda, toute l'étendue du territoire est couverte par l'Internet à 100%. Le problème qui reste est de s'assurer que les gens s'en servent régulièrement. Pour cela, il faut une sensibilisation, il faut aider la population à avoir le matériel de l'utiliser et il faut aussi former les citoyens à l'usage de l'Internet. Il faut aussi créer du contenu, que ce soit pour les services publics, les études, la médecine, et faire en sorte que le citoyen se serve de l'Internet pour son bien.
Les résultats d'une recherche effectuée en 2021 ont montré que l'Afrique subsaharienne est la partie la moins connectée à l'Internet sur le continent africain. En 2000, la connectivité à l'Internet y était de 1%, alors que le taux actuel est de 30%. Même s'il y a actuellement une légère progression, environ 840 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'Internet. Jean Damascène Manishimwe, VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
En Guinée équatoriale, des nouveaux-nés sont fréquemment trouvés dans les décharges de Malabo, la capitale, ou dans des bacs à ordures dans d'autres localités du pays. Un phénomène de société qui révèle un malaise profond dans le pays, nous dit de Malabo notre correspondant Samuel Obiangbana.
Ce nouveau phénomène de jeter des bébés dans les décharges est devenu monnaie courante et divise les équato-guinéens. Emerissien Nkoye Vassa est délégué provincial au ministère des Affaires sociales.
Certaines filles, certaines femmes le font parce que l'homme qui l'a mise enceinte a fui. L'homme dit « ce n'est pas moi, tu avais beaucoup de partenaires » et la pauvre, au lieu de garder l'enfant, elle préfère jeter le bébé. Il y a d'autres filles qui ne veulent pas être mères car elles voudraient toujours aller dans les discothèques et autres. Et d'autres, parce que le bébé est orphelin d'un père vivant mais qui n'est pas responsable.
Le journaliste Juan Pedro Manden constate l'insuffisance des politiques sociales en faveur des jeunes mères.
Cela renvoie le plus souvent l'environnement dans lequel vivent ces filles, ces jeunes mamans qui sont en proie à la pauvreté. Pas de suivi également et surtout après avoir enduré 9 mois de grossesse, mais il faut d'abord voir quel environnement elle vit. Est-ce qu'elle-même, elle est à même de supporter le poids d'élever un enfant? Donc il y a la pauvreté aussi. Il n'y a pas de suivi de la part des autorités, bien qu'il y ait un ministère qui est chargé des questions de femmes en Guinée équatoriale, mais on ne voit pas trop la prise en charge des jeunes mamans. Il n'y a pas assez de politique sociale à ce niveau.
Pour sa part, Araceli Akan, sociologue et enseignante à l'Université nationale de Guinée équatoriale, prône d'éviter les préjugés.
D'habitude, nous aimons juger sans savoir la réalité qu'il y a derrière chaque cas. C'est une histoire différente de l'autre. Pour ce sujet que les filles jettent les bébés dans les décharges, mais il y a beaucoup de facteurs pour qu'un individu arrive à cette dimension. On peut par exemple citer ici le manque d'éducation. Quand il manque l'éducation sur les valeurs, le manque de moyens économiques peut aussi pousser une femme de prendre cette décision. Il y a le contexte familial, l'immaturité, l'entourage, l'état de santé mentale, la peur et la violence.
Face à ce phénomène de bébés dans les poubelles et pour éviter les grossesses ou enfants indésirés, Emericiane Nkoyivasa, déléguée provinciale au ministère des Affaires sociales et de l'égalité du genre, appelle les jeunes à l'utilisation des préservatifs et la contraception. La loi équatoguinéenne interdit l'avortement et jeter un bébé dans la poubelle constitue un délit de tentative de meurtre, selon le juriste Manuel Nguemensan. Certains bébés retrouvés vivants ont été pris en charge par le gouvernement et placés dans des orphelinats. Pour le moment, aucune fille mère n'a été interpellée. Samuel Obiambana, Malabo, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, la consommation, la vente et l'importation de la chicha sont interdites. De nombreux bars à chicha sont concernés à Bamako. La décision d'interdire ce business, et dans un délai de 6 mois, ne fait pas l'unanimité parmi les Maliens. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Mariam Sissoko, la vingtaine révolue, salue des deux mains la décision prise par les autorités de la transition d'interdire la consommation, la vente et l'importation de la chicha au Mali.
J'approuve beaucoup ce que l'État a pris comme décision en interdisant la chicha parce que c'est un produit qui nuit beaucoup à la santé. On voit chaque jour que la jeunesse a oublié même ce qu'elle doit faire à cause de la consommation de cela.
Pour Bakary Kébé, issu du milieu soninké, après avoir été témoin des ravages de cette substance au sein de sa communauté, en plus de féliciter cette décision, estime que les autorités devraient même l'étendre à d'autres substances comme la cigarette.
Je suis ici d'une ethnie qui immigre beaucoup. Je vois beaucoup de nos jeunes qui arrivent, c'est-à-dire qu'en vacances chaque année, ils arrivent avec, c'est-à-dire que ces pots de chicha. Donc, ils peuvent pas s'embrasser de cela, se débarrasser plutôt de cela. Je peux même vous dire que ça a causé, ça dit qu'un énorme problème au sein, ça dit auprès d'un jeune, ça dit qu'il n'arrive même pas, je sais pas comment dire, à avoir des enfants. Et le médecin l'a révélé que vraiment c'est à cause de ce sujet-là. Donc moi, je salue fortement la décision du gouvernement malien. Donc s'ils peuvent même, ça dit, ajouter d'autres, ça dit, décisions en interdisant la cigarette même, ça dit, la consommation de la cigarette, ça dit, toutes les années totales maliennes, cela me fera plaisir.
Dans un pays où taux de chômage élevé, la vente de la chicha s'est avérée un véritable tremplin pour de nombreux jeunes qui, en plus d'y avoir investi, emploient d'autres jeunes. Ainsi, prendre la décision d'interdire ce business et dans un délai de 6 mois sans dédommagement est incompréhensible pour Moussa Yoro Diallo, membre du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali.
En réalité, cette situation, elle est complexe. Elle est complexe au sens que il y a un bon nombre de jeunes maliens qui aujourd'hui ont trouvé en réalité leur revenu, sinon qui arrivent à subvenir à leurs besoins à travers la commercialisation de la chicha. Si l'État tout d'un coup vienne prendre une décision d'interdiction et de la consommation et de la vente et de l'importation, n'est-ce pas, de ces produits. Et je pense quand même que l'État doit aussi pencher un peu au dédommage, n'est-ce pas, de ces jeunes-là. Il y a des gens qui ont investi des centaines, sinon des dizaines de millions de francs CFA dans ça. Et quand on demande à ce que ça soit arrêté dans un délai de 6 mois, est-ce réellement ces jeunes pourront avoir l'argent qu'ils ont eu à investir dans ça pendant ces 6 mois-là.
D'ores et déjà, les propriétaires du club de Chicha ont formé un collectif qui a tenu une assemblée générale pour protester contre ces décisions prises par les autorités maliennes le 15 août dernier. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedidia, à la mise en onde, Ronanira Lionel Gaïba, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur le site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.